cela, Nadine avait apporté un message et elle avait encouragé l'Église à sortir de ses quatre murs. Elle avait encouragé l'Église à sortir, à aller vers les perdus. Et c'est vrai que ça correspond au mandat. Et pendant la Sainte Cène, Manuela aussi a prié pour que la flamme de l'évangélisation soit ranimée. Et c'est vrai que ça correspond tout à fait à la volonté du Seigneur. 1 Timothée 2,4 nous dit « Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Tous les hommes. Et la parole nous dit que nous sommes des ouvriers pour la vérité. Nous sommes appelés ouvriers pour la vérité. Et quand on parle d'ouvriers, on parle aussi de savoir-faire, d'artisanat, il en était question à l'instant, d'équipement. Et moi, je voudrais simplement vous donner peut-être quelques outils qui pourront vous servir. Parce que lorsqu'on dit, voilà, l'Église doit sortir, c'est qui l'Église? Ben, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et aller vers les perdus, ben, c'est qui? Ce sont nos collègues de travail, les membres de nos familles, nos voisins. Voilà, donc on peut être ouvrier pour la vérité au quotidien, on peut rentrer pleinement dans ce mandat au quotidien. Et donc on n'a pas besoin de faire nécessairement des grandes réunions, de grandes conférences, même si c'est aussi important, mais on peut nous-mêmes, à notre niveau, dans notre vie, œuvrer pour la vérité. Alors je voudrais vous proposer un petit parcours, c'est le parcours BEP, et j'aimerais commencer par le B, c'est bon sens. Parole de bon sens. La Bible dit la chose suivante, si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre, avec humilité et respect. Et vous connaissez peut-être Raphaël Hansenberger, c'est le secrétaire général de France Évangélisation, et lui dit la chose suivante, il dit que dans notre société, les gens, ils réclament des justifications, ils réclament des raisons de croire. On est dans une société profondément athée et humaniste. Et moi, je crois qu'il est important de rejoindre ces personnes un tout petit peu. Pas trop, mais non plus pas du tout. Il faut rejoindre, à mon avis, ces personnes sur leur terrain de raisonnement. Et la raison ne doit jamais destituer la foi. Mais moi, je crois que la raison ne doit pas être occultée. Je crois que la raison doit être au service de la foi. Vous voyez, avant, ma fille m'a montré un dessin, elle écrivait le mot « chrétien ». Et il y avait le H qui manquait. Vous voyez ce que ça veut dire. Voilà. Il y avait le H, et je lui ai expliqué, non, chrétien, ça s'écrit avec un H. Et moi, je crois vraiment qu'il est important d'utiliser aussi la raison au service de l'Évangile. Il est clair que lorsqu'on est dans une démarche d'évangélisation, tout raisonnement doit être enveloppé de nos prières. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement, mais Saint-Esprit dont nous, on est le temple aussi. Et c'est un Ravi Zacharias qui dit la chose suivante, et j'aime beaucoup cette image, il dit l'apologétique, donc la défense de la foi chrétienne, il était question avant dans le verset de défendre notre foi, il dit que la défendre notre foi, c'est opérer une taille dans le buisson du doute. Et donc, nos contemporains, ils ont parfois, devant leurs yeux, un buisson, des mauvaises herbes, un buisson du doute avec plusieurs questions. Et il y a derrière, il y a la croix. Et Ravi Zacharias dit qu'il est important pour nous d'opérer des tailles dans le buisson du doute afin que les sceptiques puissent entrevoir la croix et la parole de Dieu. Et parfois, ça s'avère vraiment nécessaire de le faire. Écoutons par exemple ce que dit Paul. Paul, il a eu un moment donné un entretien avec un responsable romain du nom de Festus. Et Festus, il est assez direct avec lui, il dit « T'es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Qu'est-ce que Paul lui répond? Il lui dit « Je ne suis pas fou. Très excellent, Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. » Donc Paul s'appuie sur des faits. Il s'appuie sur des faits et il prononce des paroles de vérité et de bon sens. Là, il était question d'une attitude quand même assez défensive. Soyez prêts à défendre votre espérance, votre foi. Mais Paul, lui, va encore plus loin. Lui, il prône même une attitude que j'appellerais offensive. Paul lance un appel solennel à Timothée, lui dit la chose suivante, écoutez bien. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, et convainc. Convainc. Donc il y a aussi voilà, un travail de persuasion qui peut être tout à fait pertinent. Donc l'argumentation, elle est pas interdite dans le domaine d'évangélisation, elle est même encouragée. D'accord. Là, c'est 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Je n'ai pas la référence de... Voilà. Et ensuite, défendre sa foi, c'est 1 Pierre 3,15. Mais sinon, je pourrais te les donner, il n'y a pas de problème. Mais je vais essayer de nommer les références à chaque fois. Voilà. En tout cas, voilà, moi, je crois qu'il y a un juste milieu. D'une part, enfin, il y a deux extrêmes à éviter. Il ne faut pas tomber dans le piège, effectivement, du rationalisme, c'est-à-dire tout le temps vouloir, ou une sorte d'intellectualisme trop prononcé, c'est-à-dire, voilà, si la personne elle est sceptique, et tout le temps dialoguer, entrer dans des débats sans fin et qui vont s'avérer finalement complètement vains. Ça, c'est un extrême à éviter, on est d'accord. Mais à mon avis, l'autre extrême à éviter, c'est quelque part se priver d'éléments de la raison, c'est-à-dire éléments historiques, archéologiques, scientifiques, qui confirment la véracité de la parole. Et de dire à la personne, ah, bah, écoute, non, moi, j'entre pas dans des débats rationnels, écoute, bah, tu crois ou tu crois pas, enfin, voilà. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Parce que, d'ailleurs, la parole nous dit, Jude 1, 22, ayez pitié des uns de ceux qui doutent. Ayez pitié de ceux qui doutent. Donc, voilà, manifester de la compassion à leur égard, ben, c'est pas en leur disant, ben voilà, ben, tu crois pas, ben voilà, c'est juste, t'es stupide, tu crois ou tu crois pas, c'est pas aussi simple et aussi tranché que cela. Donc, il y a des éléments rationnels qui confirment la véracité de la parole. Et ça, c'est bien le but, c'est de confirmer la véracité de la parole de Dieu, confirmer la parole de vérité. Alors, il est donc important d'apporter des réponses pertinentes et percutantes face à des questions que nos contemporains peuvent souvent nous poser, des questions qui reviennent. Et là, je voudrais juste, voilà, sans prétendre à l'exhaustivité, juste vous donner quelques éléments qui pourront vous aider. Premièrement, des personnes demandent, oui, mais qu'est-ce qui nous prouve que Jésus a vraiment existé ? Voilà. Donc c'est l'historicité de Jésus qui est remise en question. Et donc là aussi, on peut utiliser cette dimension historique. Vous avez par exemple Tertullien, un théologien qui a écrit en 197 après Jésus-Christ, il a parlé de l'empereur Tibère, et il dit « Tibère, sous le règne de qui le nom de chrétien fait son entrée dans le monde, soumis au Sénat les faits qu'on lui avait annoncés de Syrie-Palestine, faits qui avaient révélé là-bas la vérité de la divinité du Christ. Et il manifesta son avis favorable. » Le Sénat n'ayant pas lui-même vérifié ces faits, vota contre. Tibère persista dans son sentiment et menaça de mort les accusateurs des chrétiens. Ça, c'est quand même fort. Alors après, on peut dire, ah oui, pour ceux qui sont vraiment voilà, dans le doute, oui, mais bon, c'est Tertullien qui raconte ça. Bah ouais, c'est un partisan, c'est un théologien. Il a peut-être un peu déformé voilà, les faits ou les propos de Tibère, ainsi de suite. Mais je voudrais vous citer une autre personne, et c'est un écrivain romain qui était complètement opposé au christianisme. Donc là, on ne pourra pas l'accuser de partisanisme. Et c'est Tacite. Et lui, il dit la chose suivante. Vous savez que il y avait un grand incendie. Il y avait un grand incendie à Rome, et Néron avait choisi les chrétiens comme bouc émissaire. Et donc cet écrivain romain Tacite, il écrit la chose suivante. Néron, donc l'empereur, supposa des coupables et infligea des tourments raffinés à ceux que leur abomination faisait détester, que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vint de Christ, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Réprimez sur le moment cette détestable superstition, percer de nouveau, non pas seulement en Judée, où le mal avait pris naissance, mais encore dans Rome. Voilà. Donc là, c'est un adversaire du christianisme qui parle et qui confirme qu'il y a bien quelqu'un du nom de Christ qui a été livré au supplice sous Ponce Pilate. Autre question qui peut revenir aussi, la mort à la croix. Alors après on peut nous dire, oui mais bon, Jésus était peut-être un imposteur, et c'était peut-être une, il y en avait d'autres des crucifixions, c'était peut-être une crucifixion entre guillemets banale, comme les autres qui ont eu lieu à cette époque. Et là, on peut rétorquer la chose suivante. Comme vous le savez, il y a donc au moment de la crucifixion, il y a eu des ténèbres sur la terre entière. C'est ce que la parole nous dit. D'ailleurs, ça avait été prophétisé dans le livre d'Amos, donc au 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ. Amos donc, a écrit la chose suivante. « En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et ainsi de suite. Je mettrai le pays comme le deuil Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. » 9e siècle avant Jésus-Christ, et il a été prédit donc qu'il y aurait des ténèbres à midi. Et que nous dit Luc 23, 44 ? Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, donc de midi à 15 heures. D'accord ? Donc la prophétie a été confirmée, elle a été accomplie. Et alors après, tu pouvais me dire, oui, mais voilà, ça c'est la parole qui le dit. Oui, mais on peut encore aller plus loin. Vous savez qu'il y a aussi un historien du nom de Talus qui, en 52 après Jésus-Christ, a aussi évoqué les ténèbres qui ont eu lieu sur la terre entière. Donc ça montre vraiment que, je veux dire, voilà, avoir des ténèbres sur la terre entière de midi à 15 heures, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on ne pourra pas nous rétorquer que c'était vraiment un moment comme un autre. C'était un moment vraiment particulier de l'histoire qui est donc confirmé, de manière météorologique et aussi par l'histoire. Et donc, on a juste quelques fragments de des écrits de cet historien. Par contre, on a un auteur qui, lui, détenait apparemment l'un de ces tomes, le troisième tome, et il dit la chose suivante. Donc cette personne qui détenait le troisième tome du livre de Talus dit « Talus, au troisième tome de son histoire, explique les ténèbres par une éclipse solaire, ce qui me semble peu rationnel. Tout à fait irrationnel en effet, car il est impossible qu'une éclipse solaire ait lieu pendant la pleine lune. Or, le Christ est mort à l'époque de la pleine lune pascale. » Et on peut encore aller plus loin. Donc Tertullien, dont j'ai parlé avant, ce théologien, il s'est adressé un jour à des responsables romains et à son tour, il a évoqué donc ce phénomène quand même assez particulier de ténèbres en plein jour et il leur a écrit la chose suivante. Il leur a écrit, en parlant de la crucifixion, « Et d'ailleurs, attaché à la croix, il a fait, en subissant cette mort, beaucoup de prodiges qui lui sont propres. En effet, il rendit l'âme de lui-même en prononçant ses dernières paroles, ainsi de suite. » Écoutez bien. « Au même instant, le jour fut privé de soleil, qui n'était arrivé qu'au milieu de sa course, hein, midi. Ce prodige fut certainement pris pour une éclipse par ceux qui ne savaient pas qu'il avait aussi été prédit pour la mort du Christ. Écoutez bien, et pourtant vous le trouvez consigné dans vos archives comme un accident mondial. » Tertullien, il s'appuie sur des archives des Romains pour leur dire, mais vous voyez, c'était un accident, ce que vous appelez un accident mondial, il y a bien eu quelque chose de particulier. Et moi, je trouve que c'est quand même intéressant de savoir ce genre de choses. Ensuite, une autre question aussi qui revient par rapport à Jésus en tant que tel, c'est quelque chose qui est très à la vogue, très à la mode et en vogue, encore là au XXIe siècle, c'était très fort aussi au XXe. Est-ce que Jésus, quelque part, c'est pas un simple maître de la morale au même titre que Bouddha ou Mahomet? Est-ce que c'est pas un des chemins qui peut éventuellement mener à Dieu? Et là, je voudrais vraiment... Je vais citer pas mal de sources, mais je crois que ça peut être vraiment enrichissant. Et là, je voudrais citer une parole de bon sens de C.S. Lewis, qui est connue à travers les chroniques de Narnia, qu'il a écrit, mais il a écrit d'autres livres vraiment de qualité. Écoutez bien ce que C.S. Lewis a écrit au sujet vraiment de cette idée selon laquelle Jésus ne serait qu'un maître de la morale parmi d'autres. Il écrit. J'essaie ici d'empêcher quiconque de dire cette chose insensée que les gens disent souvent de lui. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand maître de morale, mais je n'accepte pas sa prétention d'être Dieu. Il ne faut pas dire cela. Un homme qui ne serait qu'un simple homme et qui tiendrait le genre de propos que Jésus a tenu ne serait pas un grand maître de morale. Ou bien ce serait un fou, au même titre que l'homme qui se prend pour un œuf poché, ou alors ce serait le diable de l'enfer. Vous devez choisir. Ou bien cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien c'est un fou si ce n'est pire. Nous pouvons ne pas l'écouter en disant qu'il est fou, nous pouvons cracher sur lui et le tuer comme un démon, ou nous pouvons tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'allons pas suggérer quelque non-sens protecteur sur le grand maître humain qu'il l'est. Il ne nous en a pas laissé libre et n'en avait nullement l'intention. Vous voyez ? Donc c'est-à-dire, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité ». Il n'a pas dit « Je détiens la vérité, je suis la vérité ». Donc Jésus ne nous laisse pas le choix. Donc il demande de notre part un positionnement radical et tranché. Et pas voilà, quelque chose un peu de dilué. Oui, c'est un maître de la morale parmi d'autres, c'est impossible. Donc ça, on peut dire à des personnes un peu qui sont en recherche, dire Jésus nous demande un positionnement radical de votre part. Qui est Jésus pour vous ? C'est soit blanc, soit noir, mais pas gris, c'est pas possible. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc personne, c'est pas par le biais de quelqu'un d'autre qu'on peut venir au Père, seulement par Jésus. Pour moi, voilà, ça, pour moi, ça c'est une parole de bon sens, mais qui est vraiment percutante. Autre point aussi qu'on peut parfois qu'on peut amener dans une discussion, que la personne justement qui est devant un buisson du doute peut évoquer, c'est bien sûr la position de la science. D'accord. Donc là, je vais pas aller dans les détails. Je pense que j'ai peut-être même des personnes beaucoup mieux placées que moi, comme Benjamin, qui pourraient développer ça un jour. Mais j'aimerais juste vous donner là aussi quelques petits points qui pourraient vous aider aussi à dialoguer avec la personne qui brandit voilà la science dans ce buisson du doute. D'abord, l'infiniment grand. Il y aurait a priori 10 puissance 22 planètes dans l'univers, mais vous savez combien de planètes on aurait besoin pour trouver, donc là c'est une question de probabilité, pour trouver une planète qui a les mêmes critères que la nôtre, en gros une planète sur laquelle la vie est possible. Vous savez, 10 puissance 53. D'accord. Donc la probabilité de trouver voilà, une planète idéale comme la nôtre est très faible. Et regardez ce que la parole dit. Vous voyez, regardez, là où je veux en venir, c'est qu'on a des faits, Paul aussi parlait de faits face au roi, on a des faits qui confirment la parole. C'est ça qui est intéressant, des faits qui confirment la parole et qui peuvent ensuite, grâce auxquels on peut parfois opérer des petites tailles dans le buisson du doute. Et là, il est dit, par exemple, dans la parole, là, par contre, je n'ai pas la référence, il est dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermie les cieux. Et vous savez, il y a une nouvelle science actuellement aussi à la mode, c'est le biomimétisme. Donc ce sont des ingénieurs, des scientifiques qui découvrent, qui voient à quel point la nature est géniale et qui essaient de s'en inspirer pour développer des machines et des concepts. Donc là, on voit aussi l'intelligence du créateur derrière la création. Si on va, par exemple, vers l'infiniment petit, vous savez qu'un seul dé à coudre rempli d'ADN pourrait contenir tous les ouvrages de toutes les bibliothèques du monde. Un dé à coudre d'ADN pourrait contenir tous les ouvrages de toutes les bibliothèques du monde. Et je terminerai juste, avant de passer à un autre point, par une citation d'un monsieur qui défend la théorie de l'évolution. Jean Roustan, il est assez connu, biologiste, historien des sciences. Il défend la théorie de l'évolution. Et il dit la chose suivante, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit, on ne peut que croire en l'évolution, parce que ça aussi c'est quelque chose qui vient, et la théorie de l'évolution alors, lorsqu'on peut dialoguer avec des non-convertis, et lui dit la chose suivante, on ne peut que croire en l'évolution, il est bien entendu qu'on ne peut jamais que croire, et que toute la différence est entre les téméraires qui croient qu'ils savent, et les sages qui savent qu'ils croient. Qu'est-ce que j'aime cette citation ? Toute la différence est entre les téméraires qui croient qu'ils savent. Voilà, c'est-à-dire ils croient détenir la vérité, ce n'est pas une hypothèse, et les sages qui savent qu'ils croient. C'est-à-dire les sages qui savent très bien qu'il s'agit d'une hypothèse et d'une théorie. Dernier point, après je viendrai au point E. Autre point aussi que les personnes peuvent aussi évoquer, oui, mais est-ce que la Bible, c'est un écrit fiable ? Oh, ça fait depuis longtemps que la Bible a été écrite. Est-ce que quelque part, la Bible, elle n'a pas été déformée, elle n'a pas été manipulée ? Et là aussi, Jésus dit, l'écriture ne peut être anéantie. Donc, on peut dire à la personne, la Bible, elle ne peut être anéantie, elle ne peut être falsifiée. Mais je pense qu'on peut aussi aller un tout petit peu plus loin. Vous savez par exemple que l'Ancien Testament hébreu a été achevé avec le livre de Malachie vers 430 avant Jésus-Christ. D'accord ? Mais la copie la plus ancienne de l'Ancien Testament qu'on détient date du Xe siècle. Donc vous voyez, c'est vrai que le laps de temps est assez important. Mais il faut aussi savoir que la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, l'Ancien Testament avait été traduit en grec, c'est la Septante. Et il a été traduit entre 150 et 200 avant Jésus-Christ, et on détient des copies de cette Septante qui date de 325 après Jésus-Christ. D'accord ? Et donc les scientifiques, les experts ont logiquement comparé les deux copies, celle du Xe siècle, celle de 325 après Jésus-Christ, et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Que c'était fondamentalement la même chose. Comme vous le savez peut-être aussi, en 1947, il y a eu vraiment un événement exceptionnel au niveau de l'archéologie. Vous avez, suite à un hasard, avec un grand H, ou plutôt un grand D, vous avez donc des personnes là qui se sont baladées et qui ont découvert dans des grottes, ils ont découvert des jarres avec des manuscrits. Et il y avait, dans ces manuscrits, il y avait des extraits de la Bible qui dataient de 100 à 200 avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'était un trésor pour les archéologues. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont comparé ces textes bibliques, qui dataient de 100 à 200 avant Jésus-Christ, avec notre copie la plus récente de l'Ancien Testament du Xe siècle. Qu'est-ce qu'ils ont constaté à votre avis ? C'est fondamentalement la même chose. Il y avait quelques variantes, mais insignifiantes. Et donc vous voyez, même l'archéologie confirme la véracité et la fiabilité de la parole. D'ailleurs, en parlant d'archéologie aussi, vous avez un archéologue de l'université de Yale, qui n'est certainement pas la plus mauvaise des universités, qui a dit « Plus d'un archéologue a vu son respect pour la Bible s'approfondir grâce aux fouilles réalisées en Palestine. » Donc l'archéologie confirme aussi la parole. Ensuite, on pourrait aussi s'intéresser quelques instants aux personnes qui ont rédigé la Bible sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Là aussi, des personnes peuvent vous dire « Oui, mais voilà, mais ces gens-là, est-ce qu'ils étaient fiables ?» et ainsi de suite. Ce qui est quand même important à noter, c'est peut-être une évidence pour vous, mais pas forcément pour des gens avec qui on parle, ces personnes-là, je parle par exemple du Nouveau Testament, et bien pour la plupart, c'était ce qu'on appelle des témoins oculaires. Ils ont vu et ils ont décrit ce qu'ils ont vu, tout simplement. Vous avez tellement de citations qui vont dans ce sens, et la Bible appuie, elle souligne ce fait. Ils disent, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Nous avons entendu cette voix venant du ciel. Nous l'avons vu, nous lui rendons témoignage. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, et ainsi de suite. Deuxièmement, ces personnes-là, c'était vraiment des personnes consciencieuses. À l'image, par exemple, de Luc, donc qui était aussi médecin, et Selon un archéologue aussi, c'était un historien de premier rang. Et là, il y a quelqu'un aussi qui a écrit au sujet de Luc la chose suivante que je trouve très intéressante. Il dit « Le souci d'exactitude de l'historien Luc est remarquable. Le soin avec lequel il décrit les itinéraires suivis, sa connaissance minutieuse des institutions de l'Empire et des titres des fonctionnaires, impérieux dénote une information exacte et vérifiée. » Je voudrais juste encore parler quelques instants au sujet de la résurrection. Donc il est dit aussi voilà, que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, quelques-uns sont morts, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et ensuite il est apparu à Paul. Et vous avez un président d'une association d'avocats qui a écrit la chose suivante, je trouvais ça aussi intéressant, ça peut faire réfléchir. Il écrit « Supposons que les récits écrits des apparitions de Jésus à des centaines de gens soient faux. » Je pose une question. Avec un événement ayant bénéficié d'une telle publicité, ne pensez-vous pas raisonnable qu'un historien, un témoin oculaire, un opposant aurait rapporté une fois pour toutes qu'il avait vu le cadavre du Christ ? Le silence de l'histoire est assourdissant lorsqu'il s'agit du témoignage contre la résurrection. Le silence de l'histoire est assourdissant lorsqu'il s'agit du témoignage contre la résurrection. Et par rapport aussi aux rédacteurs des évangiles, là aussi ça demande un positionnement de la part des gens. Est-ce que ce qu'ils apportent, comme nous dit l'épître aux Thessaloniciens, c'est la parole des hommes ou c'est la parole de Dieu ? Et là un historien écrit la chose suivante, il dit, ça aussi ça m'a fait réfléchir, qu'une poignée de gens très simples, il parlait des rédacteurs des évangiles, aient imaginé au cours d'une seule génération une personnalité si puissante et si attirante, donc le Christ, une éthique si élevée, la vision d'une fraternité humaine si riche en inspiration, serait un miracle plus incroyable qu'aucun de ceux que racontent les évangiles. Et je trouve ça excellent. On peut ensuite, enfin, avant que je passe à mon point E, qui sera plus court, je vous rassure, le point P aussi, on peut parler aussi de l'essor extraordinaire de l'Église primitive. Le développement exceptionnel de l'Église primitive. Alors, j'ai des chiffres aussi qui sont impressionnants. Vous savez que certains pensent que l'Église de Jérusalem était composée de 20 000 membres, selon les historiens, au moment du martyre d'Étienne, 20 000 personnes. Selon Jean Chrysostome, Antioche était à un moment donné composée de 100 000 chrétiens, c'est-à-dire la moitié de la ville. Un auteur romain a écrit à l'empereur, et il se plaignait, c'était une plainte qu'il adressait à l'empereur, et il dit, au sujet d'une province d'Asie mineure, il dit « Les temples des dieux païens sont presque totalement abandonnés. Les chrétiens sont partout une multitude. » Et vous savez que la Bible voilà, parle des chrétiens comme des gens qui ont bouleversé le monde, ces gens qui ont bouleversé le monde. Et donc ma question est la suivante. Si Jésus était vraiment un imposteur, si ces gens, quelque part, qui ont été des témoins oculaires, est-ce qu'ils auraient donné leur vie pour un imposteur ? Sachant qu'on connaît leur état lorsque Jésus était à la croix, voilà, un état de découragement le plus total, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là, ils sont passés d'un état de découragement à un état de martyr ? Quelqu'un dit, voilà, quelqu'un écrit, on était prêt, on aurait pu, voilà, tout faire avec eux, les fouetter, ainsi de suite. Mais il y a une chose qu'on ne pouvait pas faire, c'est leur enlever cette conviction selon laquelle Jésus était ressuscité. D'où est-ce que ça vient ? Sachant que ces gens-là, ils étaient plongés dans un état de circonstances défavorables. Ils étaient persécutés de tous les côtés. La Bible dit qu'on les appelait les balayures, les rebuts de ce monde. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là sont allés jusqu'au bout ? Et qu'est-ce qui a fait qu'avec cette situation de circonstances tellement défavorable, on a eu un essor de l'Église aussi fort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit avant, c'est la parole de Dieu qui est confirmée. Que nous dit Actes 9:31 ? L'Église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça ne peut que être surnaturel. On ne peut pas l'expliquer de manière humaine. cet extraordinaire essor de l'Église primitive. C'était l'Esprit Saint qui était à l'œuvre. Je viens maintenant à mon deuxième point, le point E. Donc, je rappelle juste l'objectif. L'objectif, vraiment, un de nos objectifs en tant que chrétien, ça devrait être de gagner notre pays à Christ. Gagner notre pays, c'est gagner nos voisins, et ainsi de suite, à Christ. Et bien sûr, le bon sens, ça ne fait pas tout. On est absolument d'accord. Pour moi, c'est qu'une partie, une partie de l'équipement, quelque part, dont on peut avoir, auquel on peut avoir recours lorsqu'on est dans une démarche d'évangélisation. La deuxième partie, c'est notre essence. Je parle de notre essence dans le sens notre nature. C'est notre nature, notre être, quelque part, qui doit aussi parler. Et ça aussi, ça ne peut que se faire à travers une marche avec le Saint-Esprit. Et là aussi, laissez-moi juste citer quelques passages qui abondent dans ce sens-là. Simplement, voilà, être et laisser le Christ s'exprimer, agir à travers nous, être à travers nous, ça c'est quelque chose aussi de crucial qui pourra aussi être déterminant dans une démarche d'évangélisation. Avant, j'avais cité tout au début 1 Pierre 3,16 où il est question de défendre notre espérance si on nous demande de le faire. Mais je voudrais juste lire la suite. Donc, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Regardez la suite. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Notre bonne conduite en Christ. Ce même Pierre utilise aussi une expression aussi que je trouve intéressante. Il est question de gagner d'autres sans parole. Là c'était au sujet des femmes, et je pense que ça nous concerne tous. Voilà. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par votre conduite. Être gagnés sans parole. Sans parole. Ou bien Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En voyant nos bonnes œuvres, ils glorifient notre Père. Dernier passage par rapport à ce point-là, de notre nature en Christ. Nous sommes participants de la nature divine et celle-ci doit vraiment s'exprimer le plus largement possible face aux personnes aussi qui ne le connaissent pas. Donner envie aux personnes d'en savoir plus. Dis, tiens, ce qu'il a lui, ou plutôt ce qu'il est lui, je voudrais aussi l'avoir, afin aussi de le vivre. Qu'il soit, donc c'est Jean 17-23, qu'il soit parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. C'est-à-dire l'unité entre frères et sœurs, c'est aussi un instrument d'évangélisation important. C'est Francis Schaeffer qui disait que l'Église, c'est l'apologétique ultime. Il dit en gros que, voilà, vous voulez défendre la foi chrétienne, okay, ben, amenez les personnes dans l'Église et qu'elles puissent voir comment la communauté, voilà, comment les relations sont vécues au sein de la communauté et qu'elles puissent ainsi aussi être touchées et dire tiens, il y a quelque chose de spécial ici. Et d'ailleurs, dernière idée avant de passer au dernier point, j'y arriverai. 12h15, ça devrait être bon, Denis. Ça devrait être bon. Il me semble avoir entendu. Mais c'était dans une vidéo que j'avais vue avec les élèves de 3e, alors Chloé, tu peux peut-être m'aider. Mais il me semble avoir entendu, dans une des vidéos qu'on a vues, tu sais, dans le parcours Alpha, que l'Église était le premier organisme bénévole au monde. Je suis pratiquement persuadé d'avoir entendu ça, mais je trouve ça vraiment intéressant de relever, mais tu t'en souviens peut-être plus, mais que l'Église... Comment ? Ça te dit quelque chose ? L'Église est la... C'est ça ? D'accord. Voilà, l'Église est la première association bénévole au monde. Donc, excellent, merci Seigneur. Et qu'on puisse encore continuer. Et le dernier point, P, à votre avis, ça peut être quoi ? Passion, oui, pourquoi pas ? Paix, vous avez dit ? Pardon ? Persévérance ? Puissance ? C'est ça ? C'est ce que tu viens de dire, puissance. C'est la puissance. La puissance. Puissance. Donc, bon sens, essence, puissance. Vous savez qu'on est attendu. On est attendu par la création. La création soupire, la création souffre, et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils et filles de Dieu que nous sommes. Elle attend. C'est-à-dire qu'elle nous attend. Et la création, moi j'y inclus évidemment les hommes, la création humaine. La création nous attend. Et quelle est l'espérance de cette création ? Avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Là, on est nouveau dans l'être, qu'on puisse aussi pleinement manifester cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et là aussi, on pourra avoir peut-être après un tout petit temps de prière, mais pour demander au Seigneur de nous aider à régner dans la vie, non pas de manière charnelle, mais de régner de manière spirituelle. Regardez ce qui, écoutez ce qui est écrit aussi. Si par l'offense, c'est dans Romains 5, 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Grâce, justice, ça aussi c'est un cocktail explosif et c'est à nous vraiment d'exploiter au maximum ce potentiel, d'explorer dans la foi, dans la plénitude de la foi, ce que ça veut dire, l'abondance de la grâce et le don de justice. Parce que comme on le verra, ça va de pair, le don de la justice et l'abondance de la grâce. Regardez ce qui est dit un peu plus loin, Romains 5, 21. « Ainsi comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. » Et nous, on est sous ce règne de la grâce. Nous sommes sous la grâce et le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Et ce matin, on a eu un petit temps de formation donc pour ceux et celles qui seront amenés à prier pour les personnes volontaires à la fin des cultes. Bon, ça commence la semaine prochaine, c'est bien ça? Et Nadine disait la chose suivante, elle disait « Mais vous ne vous sentez pas capable, c'est pas grave ». Il y en a un qui est capable, c'est le Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qui nous est rapporté dans 2 Corinthiens 3:6, où il est dit « Il », c'est-à-dire le Seigneur, nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non pas de la lettre, mais de l'Esprit. Et c'est vraiment un des passages qui m'enthousiasme actuellement le plus aussi en vue des soirées Saint-Esprit qu'on va vivre. Parce que dans 2 Corinthiens 3, il est question, vous savez, des deux ministères, le ministère de la condamnation, qui était déjà glorieux avec Moïse, et on a ensuite le ministère de la Nouvelle Alliance dans lequel on est, et il est dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux encore ? Et quand on voit déjà à quel point le ministère de l'Esprit, en tout cas au niveau de l'Ancien Testament, est glorieux, là, il est dit qu'il sera encore supérieur. Il est dit, si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice, on retrouve la justice, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et Paul termine en disant, ayant donc cette espérance-là, de ce ministère de justice et dans l'esprit qui est encore supérieur à l'autre, plus supérieur, et il dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et si on prend le terme liberté, on se rend compte qu'il peut être traduit d'une autre manière. Liberté ici veut dire littéralement hardiesse, audace. Donc on peut lire ce passage de la manière suivante. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande hardiesse. Et c'est ce qu'on veut faire. Et je crois que c'est important que chacun de nous, on puisse user de cette grande hardiesse. Lorsqu'on s'adresse à nos contemporains, lorsqu'on veut vraiment, on reçoit des choses pour eux, soyons audacieux. Je crois que c'est vraiment important qu'on le soit. On a une si grande espérance, mais qu'on puisse dans la foi avoir recours à cette grande hardiesse et audace dans le Saint-Esprit. Pour voilà, manifester, pour être des instruments au service du Seigneur, pour que des miracles, des signes et prodiges, des paroles de connaissance soient manifestées, voilà, pour la gloire du Seigneur. Et pour la moisson. Par rapport au ministère de l'Esprit, tu trouveras ça dans 2 Corinthiens 3, dans ce chapitre. Oui. Vous connaissez aussi ce passage que j'aime beaucoup qui dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » En puissance. Et je voudrais terminer, je sais que j'ai beaucoup cité la parole, bon, ça me paraît quand même normal, mais Mais en même temps, c'est une prière que je voudrais faire pour chacun de nous dans nos vies aussi, pour cette assemblée ici. Acte 14, 3, qu'on puisse vraiment vivre cette dimension-là. Il parlait plein d'assurance, on retrouve la notion d'audace et d'hardiesse. Il parlait plein d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. Ça, c'est ma prière. Vous savez, il est dit que le royaume de Dieu, c'est Matthieu 11, 12, le royaume de Dieu est soumis à la violence. C'est peut-être une expression qui peut choquer, c'est la parole qu'il dit, ce sont les violents qui le ravissent. Bien sûr, pas les violents charnels, mais je crois qu'il est important aussi d'aspirer à être un guerrier spirituel et à s'approprier avec violence, avec audace, les promesses. Et moi, je le vois de la manière suivante, c'est qu'avec tout ce potentiel qu'on a en Christ, il y en a bien sûr un qui ne veut pas qu'on explore, premièrement, tout ce ministère qui est glorieux et toute notre identité qui est glorieuse. Il y en a un qui ne veut pas qu'on l'explore, premièrement, et qui ne veut pas qu'on l'exploite. Et moi, je crois que c'est vraiment important d'explorer et d'exploiter ce potentiel, voilà, pour être en bénédiction pour les autres. Et c'est comment il s'appelait ? Abraham Lincoln. Vous savez, un jour, il avait décrété que l'esclavage serait annulé. Mais vous savez que dans les plantations du Sud, il y a des esclaves qui ont eu vent de ce décret, mais qui se sont dit « ouais, c'est peut-être pas vrai. Ouais, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être juste une fausse rumeur. » Et il y a des propriétaires peu scrupuleux qui en ont bien profité, qui les ont encore gardés comme esclaves. Voilà, qui les ont bien maintenus dans le mensonge jusqu'à ce qu'ensuite la vérité éclate. Et moi, je dis, moi, je ne veux pas faire partie de ces personnes-là et quelque part me faire voler mon identité, le potentiel que Dieu a mis en moi et en vous. Et donc, en gros, pour conclure, voilà, des paroles de bon sens, mais aussi notre nature. Et Alana parlait, et va peut-être encore continuer à parler des fruits de l'esprit, voilà, que les fruits de l'esprit puissent continuer à être manifestés à travers nous, et la puissance et les dons aussi de l'esprit. Et moi, je crois que c'est l'alliance de ces trois éléments, on va dire, essence, donc notre nature, puissance et aussi bon sens, je crois que ça peut vraiment être une alliance qui peut être très efficace en vue de l'évangélisation. Et je voudrais juste terminer par quelque chose d'un peu plus personnel que je voudrais vraiment partager à l'Église, soumettre à l'Église. Dieu distribue ses dons par grâce et sans qu'on ait à le mériter. Et moi, je crois, et je le dis voilà comme ça, en toute modestie, je crois que Dieu parfois me parle par des songes. Il l'a déjà fait et j'ai déjà pu m'adresser à des élèves suite à des songes que j'ai reçus à d'autres personnes. Et là, j'ai fait dernièrement deux songes en l'espace de 15 jours, 3 semaines, et qui ne pouvaient pas être liés avec ce que je vivais dans le naturel, parce que moi, le monde animal, ça me passionne pas trop, voilà, par rapport à d'autres. Mais c'est vrai que ça me pose question par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et dans le premier rêve, je me retrouvais dans ma chambre d'enfant chez mes parents. Et là, il y avait toute une compagnie d'animaux qui se promenaient dans ma chambre. Donc, et il y avait aussi un serpent. Alors, on se dit, oh là là, le serpent, c'est peut-être le diable, qu'est-ce que c'est que ça comme message ? Quelques semaines plus tard, un autre rêve dans lequel il y avait un lion qui m'accompagnait. Alors qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans de cela, j'avais fait un rêve dans lequel une sorte de léopard m'accompagnait, à un moment donné, il m'a sauté dessus et il m'a agressé. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, c'était peut-être plutôt quelque chose de démoniaque qu'une agression. Mais là, cette fois-ci, c'était un lion qui m'accompagnait et qui était vraiment là à mon service et domestique et voilà, qu'on pouvait caresser. Enfin, là, comme un petit chaton, quoi. Un grand lion. Et il venait là, j'avais une camionnette, il venait avec moi, enfin... Et du coup, en discutant avec un collègue, ça fait pam. Je dis, mais tiens, c'est quoi ces rêves-là ? Mais si vous prenez Ésaïe 11 et Ésaïe 65, vous vous rendez compte qu'il est question de ces animaux qui vivent ensemble dans l'harmonie. Il est question d'un serpent qui est là aussi et d'un garçon qui peut le saisir sans problème. Je dis, waouh ! Je dis, tiens. Et là, il est question des temps messianiques. Il est question des temps messianiques. Alors après, on peut se dire, oui, ben, de toute façon, on s'approche de plus en plus de la fin des temps. Ben oui, oui. Mais quelque part, voilà, moi, ça me parle. Moi, je vous soumets ça. Mais je me dis, voilà, en tout cas, les temps sont peut-être courts. Je vais être prudent dans ma manière de le formuler. Les temps sont peut-être courts. Mais en tout cas, réjouissons-nous et qu'on puisse vraiment racheter le temps. Voilà. Ça, c'est peut-être là où je voudrais en venir par rapport à ce que je viens de partager et qui est un peu plus personnel. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Anne, est-ce que j'ai encore 2-3 minutes pour prier ? Une minute ? Une minute. Ok. Si tu peux aller au piano. En tout cas, il y a d'extraordinaires promesses aussi concernant notre identité. Il dit par exemple, voilà, tout est à vous. Le monde, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est à nous. Et je dis ça, ça nous permet d'être quelque part décontracté. La mort, elle est à nous. C'est ce que la Bible dit. La vie, la mort, tout est à nous. Et nous, nous sommes à Christ. Ça devrait nous rassurer et quelque part un peu nous décontracter. Tout est à nous et nous, on est à Christ. On est dans les mains, on est entre les mains du Christ. Alors ce que je voudrais juste faire durant les quelques minutes qui restent, c'est voilà, prier pour chacun d'entre nous. Et je voudrais aussi voilà, avoir recours à cette hardiesse dont il est question et peut-être donner quelques paroles. Et si certains d'entre vous avez aussi des paroles, n'hésitez pas à venir. Et donc les autres, voilà, si vous devez partir, n'hésitez pas. Voilà, il est déjà 12h15. Seigneur, moi je te remercie pour qui tu es et je te remercie pour ce que tu as fait pour nous. Je te remercie pour ce que nous avons en toi et pour ce que nous sommes en toi. Merci Seigneur. Et ma prière, c'est que nous puissions pleinement te rendre gloire, t'honorer en explorant et en exploitant le plus possible dans la foi. Tout ce potentiel qui nous est attribué, tout ce qu'on puisse rentrer pleinement dans ce ministère de la justice, ce ministère de l'esprit qui est encore supérieur à celui du passé. Et tout cela pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire, pour être au service de l'humanité. Parce que tu veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Et qu'on puisse vraiment manifester pleinement ces dons de l'Esprit, ces fruits de l'Esprit. Qu'on puisse rentrer dans les œuvres préparées d'avance, aussi en tant qu'Église. Et qu'on puisse aussi, parfois, si nécessaire, avoir recours au bon sens, à des paroles de bon sens, pour aider nos proches, nos contemporains, et les extirper du buisson du doute. Mais toujours sous la conduite de ton esprit, Seigneur. Toujours sous la conduite de ton esprit. Qu'on puisse rentrer pleinement, chacun, là où nous sommes, là où nous serons la semaine prochaine, dans cette dimension. Que nous puissions vraiment avoir cette hardiesse dont il est question. Parce qu'on a une telle espérance qu'on puisse avoir une audace qui est à la mesure de cette espérance. Ça, c'est ma prière pour chacun.